Dans la campagne bretonne, 17 travailleurs sans papier réduits en esclavage. Un article de Jérémy Rochas. Oui, c'est la résistance, ouais. Trois personnes et une entreprise sont condamnées pour avoir exploité et hébergé dans les logements indignes 17 travailleurs sans papier dans le Finistère. En charge de l'enquête, la police aux frontières, PAF, a voulu enterrer l'affaire.
Ah ouais?
Tribunal de Brest. J'ai lu la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai fui la guerre en Côte d'Ivoire. Commence Esther, l'air grave derrière ses grandes lunettes rondes. Sur les 14 des 17 victimes venues témoigner ce 13 octobre au tribunal de Brest, il est le premier à prendre la parole pour raconter le calvaire qu'il a vécu entre 2018 et 2020 dans l'entreprise de Prestavik. Ok, donc c'est bien la suite du premier article qu'on avait déjà lu la dernière fois. Au moins c'est bien, on va un peu rebondir là-dessus. Merci pour le follow, MD. Comme prisonnier de la campagne bretonne, il raconte les rats dans les logements insalubres, les cadences de travail infernales au milieu de la nuit et en plein hiver, et les promesses du patron qui ne seront jamais tenues. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais un peu rebondir, mais alors je sais pas si vous pouvez l'avoir. Moi j'avoue, j'aimerais bien vous le scanner, parce que c'est un très très bon livre. Je vous conseille ce livre-là, qui est Coopération et néocolonialisme. Et en gros, c'est Sally Ndongo, qui est un militant antiraciste et décolonial de l'époque, qui raconte justement les conditions insalubres des travailleurs migrants, enfin ouais, non, c'est un nom particulier, mais bref, les travailleurs sénégalais de l'époque qui étaient justement issus de la migration, et globalement ça va être à peu près les mêmes conditions qui sont citées dans cet article là. Donc vous allez voir que c'est aberrant de voir que bah, malheureusement on n'a pas beaucoup évolué. En vrai si, on a quand même beaucoup évolué, mais ça existe toujours quoi, et ça c'est une aberration. Donc je vous conseille vraiment ce livre, hein, si vous pouvez le trouver. Voilà, donc coopération et néocolonialisme, je crois qu'il est disponible en achat en e-book. Moi en vrai je vous le conseille, en tout cas je l'ai trouvé vraiment intéressant. Si vous avez de l'argent à dépenser, n'hésitez pas. Hop là. J'ai justement en train de monter une vidéo sur Andorre. Ah, let's go Diamond. Après des années d'emprise, ces 14 hommes immigrés et autrefois sans papier sont prêts à affronter les trois personnes qu'ils accusent de les avoir exploités et hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Mais les deux principaux prévenus ne se sont pas déplacés. Marc Zambellan, le patron de l'entreprise, et sa compagne Alice Couteau. Eh, intéressant ça, hein. Alors là, en vrai, je trouve que c'est intéressant de voir justement que, vous savez, les fameux rapports de production, de classe, etc. Bah là, on a bien une femme qui est censé être une personne dominée dans le domaine global, qui est quand même, par sa posture de patronne, etc., arrive quand même à dominer une classe encore plus inférieure, qui est le travailleur migrant. En vrai, je trouve ça intéressant de voir que voilà, c'est, y a pas que les... Enfin, pour les Jean-Michel qui sont un peu pas très fut-fut là-dessus, il n'y a pas que les hommes qui peuvent appliquer une domination. Voilà, la femme blanche, ou en tout cas la femme occidentale, peut aussi appliquer une domination sur d'autres classes sociales. J'aurais aimé les regarder droit dans les yeux, regrette Esther, qui était l'un des instigateurs de la révolte. Ils sont poursuivis à ce jour pour traite d'êtres humains. Oh, l'enfer. Pris au piège. La vie d'Esther bascule en 2018, quand il reçoit l'appel d'une certaine Alice Couteau. Elle est recruteuse et lui propose un job facile, déclaré et bien payé, en banlieue de Morlaix, dans le Finistère. Cela faisait 6 ans que je galérais à Paris, sans papier, avec quelques tafs à droite à gauche pour survivre. Contextualise l'ivoirien de 41 ans. Cette femme lui assure un logement et un boulot qui lui permettrait, promet-elle, de régulariser sa situation administrative. Je me suis dit, on ne rate pas l'occasion pareille. Le voilà embauché à Prestavik, petite entreprise spécialisée dans le ramassage de volailles. La structure est missionnée par des exploitants avicoles de la région pour charger des milliers d'animaux vers les abattoirs. Voilà, et en vrai, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on rebondit aussi là-dessus. Les conditions d'élevage industriel d'animaux amènent ce genre de conditions de travail. Alors, et c'est là où je suis d'accord avec la tech des véganes et des antispécistes, c'est que l'exploitation des animaux est disponible et possible parce qu'il y a une exploitation liée à ça des humains. Et on peut penser aux abattoirs, les conditions de travail dans les abattoirs qui sont déplorables, là les conditions proches de l'esclavage des personnes migrantes, etc., etc. Donc c'est pour ça que vraiment, réduire aussi les nombres d'animaux dans les élevages permet aussi d'avoir des meilleures conditions de travail pour les employés. La chose qui n'a pas évolué, c'est la perception du peuple par ces gens-là. Aujourd'hui, je dirais, pour caricaturer, qu'ils nous perçoivent comme le peuple d'un jeu vidéo dans lequel on joue les personnages jouables en genre civilisation. C'est ça, entre autres, qu'il faut changer. Ça devrait être le thème de nos articles. Dépendre de nos artistes à cheval entre mode moderne et briser ce mur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais oui, bien sûr que c'est. Bah, en fait, j'ai même pire que ça à Sparrock. Pour moi, on est même devenu de plus en plus des lignes dans des tableaux Excel, et du coup, il y a encore moins cette vision humaine. Et le problème, c'est que bah, les personnes non blanches subissent la double ou triple peine, quoi. Et il suffit que tu sois non blanche, musulman ou sans papier, et là, tu subis trois fois plus que un prolo classique, quoi. Esther débarque à Saint-Sauveur, village de 700 habitants, sans transport en commun, perdu dans la campagne bretonne. C'est d'ailleurs Alice Coutou qui vient le chercher en voiture à la gare la plus proche. Prestavik est en fait la société de son fiancé, Marc Zambellan. Esther comprend rapidement que la recruteuse pioche régulièrement dans son carnet d'adresses pour trouver de la main-d'œuvre à son compagnon. Des embauches constituées d'hommes sans papier en détresse sociale dans le capital. Voilà, dans la capitale. Et ça, c'est hyper important. C'est des hommes sans papier en détresse sociale. C'est pour ça qu'il y a vraiment un rapport malsain de domination des gens, quoi, de juste d'exploitation totale. C'est le cas de Mamadou, recruté en juin 2019 avec les mêmes promesses de régularisation. Ma demande d'asile avait été rejetée et je n'avais plus les moyens de payer mon loyer, explique nerveusement l'homme de 33 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Une fois là-bas, j'étais bloqué. Je voulais fuir, mais j'avais tout sacrifié à Paris. À leur arrivée, les deux hommes signent des contrats de travail falsifiés par le patron. Ah ouais? Waouh, ça c'est une dinguerie, hein. Aucune des démarches de régularisation promises ne sont accomplies. Coincés en rase de campagne, les 17 hommes ont été exploités par Marc Zabellan dans des conditions qualifiées d'esclavage moderne au tribunal de Brest. Franchement, désolé, j'ai envie de péter un plomb. J'ai envie de péter un plomb. Genre, comment tu peux être aussi malsain, quoi? Comment tu peux être aussi inhumain? Il crée une apparence de normalité pour les contrôles, mais surtout pour que les salariés y croient, et explique à la barre l'inspecteur du travail en charge du dossier. Le ministère public abonde. Monsieur Zambellan a créé une situation de dépendance totale pour éviter à ses salariés de s'émanciper. Du travail va dépendre de tout. Leur toit, leurs besoins élémentaires et le Graal absolu, leur titre de séjour. Waouh. Mais même l'emprise psychologique que t'as, tu vois, genre c'est ultra malsain, quoi. C'est vraiment, tu installes une emprise psychologique. Ah, oh, vas-y, ça me. Esclavage moderne. Mamadou et Esther travaillent le plus souvent la nuit. Ils doivent porter de lourdes caisses à un rythme effréné. Dans les élevages, la chaleur est étouffante et l'odeur des excréments et des déchets d'animaux épouvantable. Je suis tombé malade dès le troisième jour, soupire le premier. Les employés travaillent parfois 2 jours consécutifs sans dormir. Entre les chantiers, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux et doivent patienter des heures dans un local sans chauffage. J'ai envie de péter un plomb. Vas-y, ouais, je vais pas le mettre ça. Enfin bref. Une infime partie des travailleurs, pardon, une infime partie des heures travaillées sont rémunérées. Mais pas les temps de transport entre les exploitations et les abattoirs, qui peuvent osciller entre 2 et 4 heures par jour. Alors ça c'est le travail classique, hein. Même les personnes qui sont. Bon, les femmes de ménage, par exemple, ou les AESH, pareil, je crois que c'est la même chose. Elles ont beaucoup de temps de trajet, et des fois qui vont à 4, 5, 6 heures par jour, et c'est pas du tout rémunéré, et du coup, bah, c'est ce qui permet, en fait, grâce au travail exploité, dans les, enfin, comment dire, explosé avec de la sous-traitance. Ça permet justement de ne pas payer ce genre de rémunération, quoi. On était obligé de travailler sans cesse si on voulait s'en sortir avec 700 euros par mois. Alors tu dors 2 ou 3 heures et tu retournes travailler. Se souvient Amara, recruté en 2019 par Prestavik. Après plusieurs années d'errance en Allemagne sans parvenir à obtenir ses papiers, cet Ivoirien de 40 ans est venu tenter sa chance à Paris. Alors, quand un de ses amis, tout juste recruté par Marc Zambellan, lui propose de le suivre dans l'aventure, il prend le premier train pour Morlaix. Oh, les pauvres, hein, putain. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est enfin, comment dire, la pauvreté, la précarité qui te. Ouais, c'est vrai, la précarité, mais l'ultra précarité qui t'amène à faire des choix, enfin, à te mettre dans un carcan comme ça, quoi. Pour maintenir un contrôle permanent sur les ouvriers, 2 appartements insalubres et suroccupés sont loués par l'entreprise. Le loyer est prélevé sur leur salaire. Le propriétaire des logements est Alain Corre, ami proche de Marc Zambellan. Il est le seul prévenu présent à l'audience. Bart, demandeur d'asile recruté par Marc Zambellan en 2018, se souvient de leur gérant. Il venait dans l'immeuble sans prévenir pour couper le chauffage. Il disait, ici c'est pas l'Afrique, c'est la France, l'électricité elle est chère. Wow! Oh putain, mais what the fuck? Mais wesh! C'est une dinguerie, hein. Voilà, le racisme, la traite humaine, autre domaine, même méthode. Ouais, non, vraiment, putain. Les logements sont infestés de rats et de cafards. L'humidité ronge les murs. Pour sa défense face au président du tribunal, Alain Corr explique dans une tirade raciste. Je me suis renseigné avec les entreprises de la dératisation. Elles m'ont dit qu'il y a des cafards quand il y a une population africaine. Quoi? Allô? Ah mais wesh. Mais comment tu peux sortir ça? Mais wesh! Non mais c'est pas possible. Hein. Vraiment, mais c'est pas possible. Les mecs, ils manquent pas d'air. Hein. Putain. C'est au-delà du racisme, c'est la traite d'êtres humains. Si c'était pas la couleur, ils auraient trouvé un autre discours pour leur couper le chauffage. Non, non, là, non, Raven, non, c'est du racisme. Attention, là, faut pas non plus enlever ça. Non, là, c'est clairement du racisme parce qu'il y a une couleur de peau différente, parce qu'il y a une région différente, etc. Et justement, si c'était pas fait par des prolétaires français, c'est qu'il y a bien une raison. Si les prolétaires français ne sont pas dans cette situation-là, c'est qu'il y a bien une raison particulière. Donc là, non, c'est du racisme. Là, ne soyez pas. Faut pas être, comment dire, négligent là-dessus. Lors d'un contrôle sanitaire en octobre 2020, l'Agence régionale de la santé, ARS, a demandé un arrêté de mise en péril après avoir constaté dans le premier logement un plancher imbibé d'eau impliquant une menace d'effondrement. Dans le second logement, elle a remarqué une absence de luminosité rendant le logement inhabitable et a demandé dans la foulée un arrêté interdisant au propriétaire de louer son bien. Wow, et ça c'est quoi ça? Les logements loués par Alain étaient infestés de cafards et de rats. Ah ouais, putain, mais c'est rempli! Je sais bien que c'est aussi du racisme, mais c'est au-delà de ça, c'est l'inhumanité totale, masquée par un discours raciste pour le rationaliser. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Ouais, pour moi, non, en fait, moi je vois le truc à l'inverse. C'est parce qu'il est raciste qu'il déshumanise, tu vois. Moi je le vois justement dans ce sens-là, c'est parce qu'il est raciste qu'il déshumanise. Tu vois, je le verrais plus dans ce sens-là. Prestafric. Ah putain, d'accord, oui, le nom du. Je suis mort. Au fur et à mesure des années, Marc Zambellan s'est enrichi grâce à l'exploitation des sans-papiers. Il rapportait aux enquêteurs un chiffre d'affaires de 500 000 euros en 2019. Ah oui, il se met bien le frérot. Prestavic est devenu un gros du marché grâce à ce fonctionnement, confirme l'inspecteur du travail. Dans la région, l'entreprise se faisait même appeler Prestafric. Mais attends, mais. Ah, mais en plus, les contrôleurs étaient conscients de ça! C'est parce que c'est plus facile dans leur cerveau car moins de barrières psy, d'inhibition et aussi parce que factuellement ils auront moins de soucis au tribunal. Exactement, parce que la société est raciste. Exactement, Asperoc. Au final, on appelle ça le racisme, mais il faut le déconstruire pour lutter contre chaque morceau. Ouais. Et non, mais justement, Asperoc, parce que l'État est raciste, bah, la prise en charge des dossiers est plus longue. Parce que l'État est raciste, le fait que ce soit des immigrés, on s'en bat les couilles. Parce que l'État est raciste, on s'en fout que ces gens-là vivent dans la misère, etc. Tu vois. Et c'est toute cette accumulation de l'état raciste, des structures racistes qui font que les prolétaires, enfin les Français, enfin ces cas-là de Français, peuvent se permettre de faire ça en fait. Et les gens, il suffit de voir, on lacère des tentes de migrants. On lacère des tentes, on a une interdiction de les nourrir dans les pays, à Calais. Bref, c'est une aberration, tu vois. Et c'est parce que c'est du racisme, c'est tout. Parce que regardez, les Ukrainiens. Aucun souci avec les Ukrainiens. Non, non, c'est du racisme. Vraiment, là, je serais intransigeant là-dessus. Hein. Même si je vois ton propos, Raven, hein, mais vraiment, je veux pas être négligent sur ce point. Le mec a fait de l'argent sur notre dos. On a été manipulé. S'emporte Paul, une autre victime de Zabélan. Pour assurer ses entrées d'argent, le patron impose aux travailleurs des cadences infernales jusqu'à interdire les pauses. Paul se souvient d'un épisode en particulier. J'avais un problème de santé qui impliquait des besoins naturels à tout moment. Il m'a interdit d'aller aux toilettes. Putain, ça me dégoûte, hein, vraiment, ça me dégoûte. Perso, je faisais le parallèle avec les méthodes proxénètes au début, donc oui, ça m'a fait penser au-delà aussi, mais il y a toute une structure raciste tout de même. Ouais, voilà, c'est ça. Je comprends vos points de vue, et en vrai, je suis d'accord. Mais j'ai pas envie de réduire, entre guillemets, de réduire le fait que ça soit raciste, tu vois. Même si je comprends vos points de vue, mais là, faut vraiment garder en tête que c'est cette structure raciste qui permet ce genre de choses. Tu peux pas lutter contre un état raciste concrètement, mais tu peux interdire le lacérage de tentes et faire des exemples de ceux qui le font. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, si l'État était raciste, il serait pas condamné le patron. Hein? Non, mais frérot, bref, vas-y. Avis de merde. L'un n'annule pas l'autre, de toute façon. Oui, bien sûr, là, ça ajoute. Exactement. Les accidents s'enchaînent sur les chantiers. Aucun homme n'a reçu de formation et de matériel de sécurité est très insuffisant. Par ailleurs, très peu ont accès aux soins faute d'assurance maladie. Je suis blessé au genou, puis j'ai eu le doigt fracturé. Je n'avais même pas d'ADME, aide médicale à l'État. Je n'ai pas eu un seul jour de repos, insiste Amara. Et pourquoi t'en as vu nul à chier de briques roses? En fait, qui c'est qui bosse Uber Eats? Qui c'est qui bosse dans les cuisines? Qui c'est qui bosse à faire le ménage? Qui c'est qui bosse dans des conditions déplorables partout en France? Qui c'est qui cueille des légumes? Ah bah tiens, pourquoi c'est des immigrés venant des pays d'Afrique? À ton avis, franchement, réfléchis 5 minutes en fait. Désolé, c'est du racisme. De mon point de vue, pour aller vite, le racisme, c'est juste la saveur de son milkshake à l'exploitation. Si ce n'était pas un discours raciste, ce serait corrélé par un autre discours. Ce mec ne cherche que le profit à la fin. Oui, je comprends vos points de vue, mais il n'empêche qu'il faut pas négliger ce genre de choses, quoi. En août 2020, un cluster Covid éclate dans l'entreprise. La quasi-totalité des effectifs est malade. Marc Zambellan refuse d'arrêter l'activité. Paul contracte le virus. Je me sens mal, je pars pour vomir. Et j'appelle le patron pour lui dire qu'on doit m'emmener aux urgences. Il refuse et me demande de ne pas bouger. Il m'envoie pour le chantier suivant. Des heures plus tard, Marc Zambellan finit par emmener son employé à l'hôpital. Il a passé le trajet à me hurler dessus en me disant que c'était ma faute si je suis tombé malade. Ah vas-y, mais quel... Vraiment, ce mec-là, c'est un vraiment immense merde. Hein. Vraiment le pire être humain ever, quoi. La saucisse, tout ça. Mais oui, voilà ça, on vit dans une société raciste. Voilà, vous connaissez le propos, hein. Pour faire taire les indociles, Marc Zambellan a recours à la violence psychologique. Le jour et nuit, il insulte, humilie ou menace ses employés. Il me rappelait les maîtres esclavagistes que je voyais dans les films quand j'étais enfant, ceux qui exploitaient nos ancêtres. Ah bah tiens, c'est Esther. Bah tiens, alors voilà. Alors quand tu as une vision comme ça, c'est sûr que c'est pas raciste. Hein. Bon, j'exagère, hein, mais. L'ensemble des victimes présentes à l'audience ont dépeint un chef d'entreprise alcoolique, tyrannique et raciste. Un jour, j'ai demandé à mon argent car il avait du retard. Il a arrêté le camion et m'a laissé dehors en pleine nuit à 3h du matin. J'ai dû présenter des excuses pour pouvoir retravailler, relate Kevin. Une des victimes présente à la barre. À ses côtés, deux autres requérants confirment. Il nous disait, à la chapelle, il y a des sans-papiers prêts à te remplacer en 5 minutes. Il nous disait qu'il allait nous foutre dans le premier avion en direction du bled. Ah vas-y, j'ai envie de péter un plomb. J'ai envie de péter un plomb en fait. Non, je suis désolé, ce gars-là, il fait ça par discrimination, sinon ça ne serait pas aussi sadique. C'est pas juste un cynique du profit, c'est bien un gros raciste. Mais oui, Zeke, on est d'accord. Désolé, c'est en fait c'est tout l'imaginaire. Mais pour moi là, c'est tout l'imaginaire colon en fait, de se dire bah les Africains sont bons qu'à être colonisés quoi. Pour moi, c'est vraiment l'imaginaire du colon de faire travailler les Africains dans différents pays d'Afrique avec des conditions déplorables parce que parce qu'ils sont considérés comme inférieurs quoi. Pour moi, désolé, on est vraiment dans cette logique-là. Donc arrêtez de faire des parties de claquettes en fait. Mamadou est encore hanté par les souvenirs de son exploitation. Après Prestavik, c'était le blackout. J'ai dû voir une psychologue. J'étais torturé, il fallait que je parle de ce qui s'était passé. Lors de l'audience, une victime manque à l'appel du président du tribunal. Gnadé a mis fin à ses jours en juin 2021 à Morlaix. Oh, vas-y. Son corps a depuis été rapatrié en Côte d'Ivoire. À notre connaissance, aucun message n'a été laissé par le défunt pour expliquer son geste. Mais plusieurs de ses ex-collègues estiment que l'exploitation dont il était victime durant plusieurs années a fragilisé sa santé mentale. Amara a été colocataire et l'ami de Gnadé. Je pense que je dis pas bien son prénom. Nadé, je pensais. De Nadé. Lorsqu'il était collègue à Prestavik. Il se souvient de plusieurs appels à l'aide quelques mois avant le drame. Il se sentait enfermé à Morlaix et était toujours très stressé. Il craignait que sa demande de titre de séjour ne les contraigne à rester dans la région encore des années. Tout le monde a été marqué par le décès de Nadé, assure son camarade de galère. Ah putain, ça fout la nausée. Ah vraiment là, c'est. En fait, les gens, moi, ce qui me rend fou, hein, c'est que là, on a un cas qui a été mis en avant. Mais gardez vraiment en tête que Uber, c'est quoi? Dans les cuisines en France, c'est quoi? L'agriculture, c'est quoi en fait? Dans tous les services de métiers compliqués en France, c'est ce genre de situation qui est développé en fait. Alors peut-être pas à ce level d'extrême, mais c'est ce genre de situation ultra raciste qui appuie sur les critères très ultra racistes de culture, etc. Ça a fait de la répression par rapport au titre de séjour, ça humilie là-dessus. Et ça fait la domination en mode, si tu travailles pas bien, je te renvoie dans ton pays. C'est des gens comme ça, il y en a une quantité astronomique. Non, mais le petit blanc se sent bien plus proche de l'immigré en termes d'oppression et de vie de merde que de bourgeois. Il le jalouse sa victime, d'autant plus qu'en ce moment, certains se sentent visés quand à cause de tous les problèmes en mode de parano. J'ai pas tout compris ton message, Asparoc. Les secteurs en tension n'ont jamais si bien mérité leur nom. Ouais, vraiment. Enfin, c'est vraiment, désolé, c'est dur à lire. Hein. C'est dur à lire. Hein. Putain. Esther raconte qu'avant son arrivée, les ouvriers étaient rebellés contre ces conditions incompatibles avec la dignité humaine. Ils avaient demandé une augmentation que le patron avait refusée. Ils étaient partis travailler chez Aviland, le concurrent. Le patron d'Aviland n'est autre que Daniel Roland, l'ancien chef de chantier de Prestavik. Lui aussi accusé depuis 2021 de traite des êtres humains par 27 travailleurs sans papier. Eh ben c'est bien. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Putain. La police aux frontières semble enterrer l'affaire. Ah bah tiens, l'État n'est pas raciste. Ah bah, qui c'est qui disait? Oui, il est condamné, donc l'État n'est pas raciste. Ah bah, tiens, l'État n'est tellement pas raciste que la police aux frontières semble enterrer l'affaire. Oh bah tiens, comment ça se fait? C'est étonnant, hein. Bande de tocards, voilà pourquoi l'État est raciste. Alors, réfléchissez 5 minutes en fait, vraiment. Putain, ça me fout la haine. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2020, l'inspection du travail décide d'effectuer un contrôle sur le site. Les fonctionnaires vont découvrir des conditions de travail indignes de ces ouvriers, avant de signaler la situation au procureur de la République. Le magistrat demande à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Service de l'inspection du travail, placé sous l'autorité du préfet, de poursuivre son investigation administrative. Il désigne la police aux frontières pour mener l'enquête judiciaire. Un choix surprenant. L'Office central de lutte contre les travailleurs illégaux est habituellement l'antenne de la gendarmerie spécialisée dans ce type d'enquête, relative à des affaires de traite et des êtres humains. Elle est formée aux questions d'emprise et d'exploitation. Vraiment, hein, quel enfer. Et voilà, l'État est raciste, les structures sont racistes. 27 plaintes, ça suffit pour la police apparemment. Ça suffit pas, du coup, tu veux dire, oui, c'est ça, mais voilà. En fait, c'est là où on voit que c'est raciste, c'est qu'il a fallu 27 putains de plaintes, mais vu que c'est des personnes noires sans papier, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en fout. Et ça, vraiment, faut que vous compreniez ça. Résultat de l'enquête, seul un chef de chantier en situation irrégulière a été auditionné. Les policiers ne se sont pas intéressés à la compatibilité de l'entreprise. Aucun exploitant agricole client de l'entreprise, ni voisin, n'a été interrogé. Quelques jours avant le contrôle de l'Agence régionale de la santé, les enquêteurs estiment même l'état des logements convenable et accusent les victimes d'être responsables de leur mauvais entretien. Ah bah tiens, alors ça, est-ce que c'est pas un cliché raciste ça? Oui, mais regardez, les Africains, par leur culture, ils savent pas se tenir, ils rendent les logements sales. Voilà. Désolé en fait, genre vraiment, réfléchissez avant de dire des idioties. Quand vous nommez un service qui est spécialisé dans les reconduites à la frontière, ça donne une enquête qui a eu cette connotation-là, estime Maître Bouzeda, avocat aux 7 victimes et du comité contre l'esclavage moderne. Ok, il y a un thème qui se dit comme ça, je sais pas. En septembre 2020, les ouvriers reçoivent une convocation d'inspection du travail pour être auditionnés dans les locaux de la mutualité sociale agricole. Arrivés sur place, ils sont accueillis par des policiers armés et suspicieux. Ah oh bah tiens! Vu que c'est des personnes noires sans papier, la police est suspicieuse. Vas-y, j'ai vraiment. Désolé, j'ai vraiment envie de péter un plomb là. Ils ne m'avaient pas prévenu de la présence de policiers. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Ah non, pardon, ok, c'est eux qui étaient. Ah mais oui, si, suspicieux, ouais, donc en gros, ils auraient pu se faire arrêter et renvoyer, quoi. Ah l'enfer. J'ai failli perdre connaissance, se souvient Esther. Paul constatera même que certains de ses déclarations auraient été déformées par les fonctionnaires. Des phrases ont été changées ou non retranscrites. Les policiers faisaient des commentaires. J'avais l'impression qu'ils défendaient le patron. L'institution raciste, la police raciste. Voilà, on est en train de tout goupiller, hein. Vraiment, l'article est magnifique, hein, parce qu'on est en train vraiment de dégoupiller que la structure actuelle en France est une structure raciste, avec un État raciste. Durant les auditions, les fonctionnaires remettront en question la parole des victimes, allant même jusqu'à les soupçonner de mentir en vue d'obtenir un titre de séjour, délivré aux victimes de traite des êtres humains. Street Press a eu accès au... Putain. À des extraits de procès-verbaux, d'auditions et des travailleurs réalisés en septembre 2020 et février 2021. Les questions sont très orientées. Je savais pas que tu pouvais avoir tes papiers grâce à ça. Ok. Le fait que d'anciens employés de la société aient déposé plainte et obtenu par ce fait des papiers provisoires leur permettant de régulariser leur situation administrative a-t-il été un élément déclencheur de votre choix de porter plainte? Oh, vas-y. N'avez-vous pas vu un moyen facile d'obtenir des papiers en règle? Le fait que le patron ne vous ont fait travailler en sachant que votre situation administrative en France ne vous le permettait pas est le seul élément pouvant être lui être reproché, n'est-ce pas? La PAF a interrogé les victimes comme des étrangers sans titre et non comme des victimes de traite des êtres humains, regrette la coordinatrice du service juridique du comité contre l'esclavage moderne, qui accompagne 10 des 15 travailleurs de l'entreprise, qui s'est portée partie civile. Voilà. Et putain, là, la raison. Les gens n'ont pas été considérés comme des gens victimes d'esclavage, ils ont été considérés comme des personnes, du coup, non blanches, sans papier, immigrées. En fait, c'est ça qui est ouf. Même face à la police, ils sont réduits à leurs conditions quotidiennes, alors du coup, et couleur de peau, et culturelle, et civile. Ils sont même pas considérés comme des travailleurs qui subissent ça, comme vous et moi, en fait. Genre, vous et moi, non blancs, ou en tout cas avec des papiers, mais on va dire blancs, quoi. On va pour porter plainte comme ça. Jamais on nous poserait ce genre de questions. C'est ça qui est ouf, en fait, le côté inadmissible de la situation. 2 ans de prison. Fait rarissime dans ce type d'affaire, le président du tribunal demandait à entendre l'ensemble des victimes présentes à l'audience. À plusieurs reprises, les anciens employés ont rendu hommage à Nadé, décédé avant que la justice ne soit rendue. Ils ont aussi porté la voix de Camélan et Abdoul, eux aussi victimes d'entreprise mais absents du procès. Mamadou assure. Nous ne nous entendions pas tous en Bretagne, mais ce jour-là, nous étions ensemble soudés. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Après, et en vrai, j'ai l'impression que je pense que l'affaire, en fait, avait vraiment été bien menée et le juge et le... Je sais pas comment on dit, le juge ou le juré. Enfin, le juge, je crois. A l'air d'avoir vraiment fait son taf et d'une forme d'impartialité, et ça, c'est cool. Après 12 heures d'audience, le ministère public soulignait la nécessité absolue qu'un titre de séjour soit délivré aux victimes de traite des êtres humains afin qu'elles puissent dénoncer et témoigner. Ok, d'accord. Ah, c'est bien que ça a pu être mis en place. Ce 15 décembre, le verdict est tombé. Pour la traite des êtres humains, la société Prestavic a été condamnée à 30 000 euros d'amende et 15 amendes de 1 000 euros supplémentaires pour le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. C'est pas beaucoup, hein. Le patron Marc Zambellan est condamné à 2 ans de prison ferme et 15 000 euros d'amende pour traite des êtres humains et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Sa compagne Alice Coutou est quant à elle condamnée à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 000 euros pour complicité. Le couple doit verser 158 000 euros aux victimes au titre de préjudice moral pour... Ouais, putain, il y a eu 150 000 euros alors qu'il y a eu un décès, hein. Pour finir, Alain Corr, le logeur, est condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis et une amende de 10 000 euros. Il doit verser 9 600 euros aux victimes et au titre de préjudice moral. C'était lourd, hein. C'était lourd. Mais c'est important de lire ce genre de choses. Et voilà, ça, désolé, hein. C'est pour ça que je veux pas... Je comprends quand vous dites « Oui, mais là, ça déshumanise les compagnies. » Non, les gens, vraiment. Ah, il faut pas négliger... Les visions racistes de la société, les visions racistes des personnes, vraiment ne négligez pas ça. Et ça, c'est un peu la posture des blancs. Moi, c'est un peu le genre de posture que je pouvais avoir à l'époque. Et même maintenant, je peux tomber dans ce genre de travers à négliger, entre guillemets, la position raciste que peut avoir le. Ah merde, mon micro est trop fort depuis tout à l'heure. Ah, tant pis. Entre guillemets, réduire la souffrance raciste que peuvent subir des gens. Et ça, c'est un peu la posture, bah ouais, quand t'es occidental, que tu subis pas ça, tu ne vois pas, en fait, tous les biais racistes qui sont mis par les gens, en fait. Et ça, vraiment, il faut le prendre en compte. Maintenant qu'on a avancé dans l'article, je dois l'admettre que les mecs sont pas vraiment racistes, je vous rejoins. Ouais, mais en fait, tu vois, là où enfin, j'ai pas envie de te tomber dessus, parce que c'est pas toi le problème, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que là, vraiment, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse gaffe ensemble quand nous, quand les gens ne vivent pas le racisme en leur chair, faites attention à ne pas réduire en mode non, mais c'est pas si raciste que ça, il est inhumain. Non, non, les gens, vraiment, gardez vraiment en tête qu'on est dans une société raciste, on vit dans des structures racistes quotidiennement, du coup, on a des visions racistes, et de ce fait-là, on perpétue des logiques racistes continuellement, en fait. Et du coup, c'est un peu facile de dire « Oui, bon, c'est pas si raciste. » Non, non, vraiment, ça, c'est une erreur de ouf. C'est pour ça que j'ai vraiment été intransigeant, voire même un peu casse-couille, mais je trouvais ça important, quoi.